Théo Manval.
8h14, l'invité politique. Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Vous avez été rassuré par Laurent Pietraszewski, le monsieur retraite du gouvernement, ici même hier à ce micro, qui n'a jamais démenti le fait que la réforme des retraites ne verrait pas le jour d'ici la fin du quinquennat.
Rassuré, je ne sais pas. Moi, vous savez, je suis toujours sur mes gardes. Ce que je sais, c'est que pour ce qui nous concerne, un, on n'a pas changé d'avis sur le bien fondé, en l'occurrence pour nous, le mal fondé de ce projet de réforme des retraites, a fortiori de l'idée d'imposer, de devoir travailler plus longtemps à ceux qui ont encore un travail quand ils sont au moment de pouvoir faire valoir leur droit à la retraite. Et deux, je l'ai dit, Si le sujet devait revenir, il nous trouvera sur son chemin et nous sommes combatifs.
Quel sens vous donnez alors aux concertations qui seront malgré tout relancées à la rentrée avec Laurent Pietraszewski, avec Jean Castex, avec l'ensemble des partenaires sociaux à Matignon ?
Moi, je note quand même, c'est pour ça que je dis que je reste sur mes gardes, c'est que À peine on a le sentiment qu'on va peut-être enfin sortir de la crise sanitaire. C'était un peu l'état d'esprit fin du mois de juin, début du mois de juillet, quand on a rencontré le président de la République. Aussitôt, on voit revenir le gouvernement, le président de la République lui-même, à grands pas, avec la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Donc, encore une fois, moi, je suis sur mes gardes. Et effectivement, l'urgence aujourd'hui, tout le monde le comprend à nouveau, c'est la crise sanitaire, la pandémie.
Vous irez à ces concertations à Matignon en septembre ?
Je ne sais pas, je vais voir ce qu'il en sera. En tout cas, si on vient me demander de discuter d'un recul de l'âge de la retraite, très clairement, je ne m'inscrirai pas là-dedans.
On l'imagine. Il a défendu hier, Laurent Pietraszewski, à ce micro, la nécessité de réformer malgré tout un système qu'il décrit comme injuste et un système surtout déficitaire de 13 milliards d'euros encore cette année.
Oui, mais ça, c'est les éléments de langage qu'on entend depuis le début. On ne cesse de nous dire « il faut le réformer ». Pourquoi ? À chaque fois que les arguments qui nous ont été avancés pour justifier cette réforme, on a démontré, pendant les 2 ans et demi qu'il y avait eu de concertation, pendant la période du conflit social sur les retraites, à chaque fois, nous avons démontré, et j'ai eu à débattre avec les ministres qui portaient ce projet, avec les parlementaires qui en étaient les ambassadeurs, et à chaque fois, nous leur avons démontré que les arguments étaient infondés.
L'argument financier est infondé pour vous aujourd'hui, 13 milliards de déficit cette année et un retour à l'équilibre, dit le Conseil d'orientation des retraites, pas avant 2055, si on a des prévisions de croissance comme celles qu'on va connaître cette année.
Le Conseil d'orientation des retraites indique très clairement que le déficit, le déséquilibre vient d'un manque de recettes qui était principalement la conséquence de la politique de contrainte du pouvoir d'achat des fonctionnaires et de la contrainte sur les emplois des fonctionnaires.
Ça ne change pas la fin.
Aujourd'hui,
il dit le Conseil d'orientation des retraites, il n'y aura pas de retour à l'équilibre d'ici 2050. Si on continue à perdre 13 milliards chaque année sur ce système-là, c'est les générations futures qui paient.
Les systèmes de retraite vont se rééquilibrer à partir des années 2030-2035.
Ça, c'est si on a une croissance à 1,5%. Vous savez que ce n'est pas réaliste.
Ah bon ? Pourquoi ?
Alors, parce que l'INSEE prévoit pour cette année 0,9% pour les années qui viennent.
Écoutez, il y a la crise sanitaire. Il y a les dispositions en conséquence de confinement, l'arrêt de tout ou partie de l'économie qui crée un déficit de recettes pour tous les systèmes fiscaux, protection sociale, retraite, assurance chômage. Nous avons dit très clairement, c'est une crise mondiale. Tous les pays sont touchés de la même manière. Il fallait gérer cette dette Covid autrement qu'en la faisant payer aux salariés, a fortiori en agissant sur le sujet des retraites. Et par rapport à l'équilibre des retraites, les difficultés en matière d'équilibre viennent principalement des difficultés sur l'emploi, les difficultés d'entrer dans l'emploi avec un emploi pérenne à temps plein pour les jeunes, les emplois à bas salaire, à temps partiel imposé que subissent plus souvent les femmes, le fait que beaucoup de seniors à partir de 50-55 ans, quand ils ont perdu leur emploi, l'emploi, et les derniers chiffres du chômage le montrent, l'allongement, l'accroissement du nombre de demandeurs d'emploi de longue durée, c'est ça qu'il faut résoudre. Si on ne résout pas ça, nous n'aurons pas de solution sur le sujet des retraites, sauf à nous dire à un moment donné qu'il n'y aura plus de retraite parce qu'on n'est pas capable de créer suffisamment d'emplois. Et ça, nous ne sommes pas d'accord.
Il y a un désaccord unanime des syndicats, même du patronat, sur une réforme maintenant, une réforme comme elle est proposée, mais d'autres centrales syndicales, je pense à la CFDT, reconnaissent un besoin de réforme d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on fait, encore une fois, Yves Verrier, avec un régime qui fera perdre à la France des milliards jusqu'en 2055? On ne peut pas le laisser comme ça.
Ce n'est pas le régime qui fera perdre des milliards à la France, c'est le déficit d'emploi, le déficit d'activité économique.
Comment
on vient de s'apercevoir avec la crise sanitaire qu'on avait désindustrialisé la France.
Ça ne date pas du Covid.
Mais si on ne résout pas ce problème-là, à un moment donné, on nous dira on ne peut plus partir à la retraite, on ne peut plus se soigner parce qu'on n'a pas les moyens de financer le système de sécurité sociale, on ne peut plus indemniser les demandeurs d'emploi parce qu'on n'a pas les moyens d'indemniser les demandeurs d'emploi. Bien évidemment, si on ne travaille pas sur la cause qui est à l'origine, à la source de ces difficultés en matière de droit à la retraite, de droit à la sécurité sociale, de droit en matière de services publics, ça vaut en matière de fiscalité. La solution, elle passe par l'activité économique, par la création d'emplois, par une activité ou une économie qui fasse autrement que de nourrir les profits financiers. Pendant ce temps-là, le CAC 40 aussi autour de ses niveaux records à 6000 points, on a versé des dividendes aux actionnaires. Les inégalités sont accrues. Il y a 100 milliards d'euros qui sont placés en actifs financiers au Luxembourg. Voilà.
Yves Verrier, qui risque, en tout cas qui est mis sur pause avant la présidentielle, c'est la réforme de la structure d'EDF, officiellement pour des raisons de désaccord entre la France et la Commission européenne. C'est le spectre d'un démantèlement qui s'éloigne. Vous êtes satisfait ?
On est au moins satisfait que, à tout le moins pour le moment, le projet est reporté. Parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est notre analyse. Ce projet d'Hercule ou Grand EDF, sous la contrainte de la Commission européenne, dont on sait qu'elle prône depuis toujours la concurrence, conduisait au démantèlement, nous emmenait sur le chemin du démantèlement du service public, du statut des agents. Et nous y sommes opposés.
On sait que le gouvernement est pour cette réforme qui scindrait EDF en plusieurs parties renouvelables nucléaires. Or, selon Bruxelles, c'est aussi le gouvernement français qui vient de mettre sur pause ces discussions qui étaient au niveau européen pour des raisons de concurrence. Ça veut dire quoi ? C'est que c'est là aussi la crainte du feu social à 10 mois de la présidentielle qui fonctionne, mais que ça revient une fois que le scrutin est passé, si deuxième quinquennat il y a ?
Je ne sais pas si c'est la crainte du feu social. En tout cas, il est certain que les fédérations syndicales ensemble, au sein d'EDF, la Confédération Force Ouvrière a eu à rencontrer à plusieurs reprises le gouvernement, le ministre de l'économie sur le sujet, et on s'est mobilisé à plusieurs reprises pour faire connaître notre opposition. Si cela a pesé dans la décision du gouvernement, je ne peux que m'en féliciter.
Je voudrais qu'on termine, Yves Verrier, avec ces révélations de Mediapart dimanche dernier concernant l'Union départementale Force Ouvrière à Brest, où plusieurs salariés ont dénoncé des violences sexuelles, des attouchements. Il y a eu 3 plaintes déposées à l'encontre de l'ancien secrétaire général. 3 des salariés de FO qui ont parlé publiquement ont été licenciés à Brest ou sont en passe de l'être, Yves Verrier. Quelle réaction ?
On a été effectivement confronté à une situation très grave, très douloureuse, inadmissible. Les salariés ont fait état effectivement d'agressions sexuelles qu'elles ont subies de la part d'un responsable depuis plusieurs années. 3 plaintes ont été déposées, une enquête est en cours. Immédiatement, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires à la fois pour protéger et rassurer ces salariés.
Pourquoi sont-elles licenciées ou en passe de l'être aujourd'hui ?
Alors, l'une d'entre elles est licenciée. Il y a eu des tensions ensuite liées à... Je pense que c'est très difficile dans ces situations très complexes de faire la part des choses, mais il y a eu des tensions.
C'est comme ça qu'on protège les victimes aujourd'hui en 2021 ?
Non, on a protégé, on protège, on a pris en charge les frais d'avocat dans le cas des enquêtes qui ont été mises en œuvre. On a interdit à ce responsable de pénétrer dans les locaux. Il nous a d'ailleurs mis en justice à son tour pour contester le bien fondé des dispositions qu'on a prises pour lui interdire de venir au contact de ses salariés.
Mais alors comment vous expliquez les 3 licenciements de ces salariés victimes qui ont osé parler ?
Il y a 2 salariés dont la médecine du travail a indiqué qu'elles étaient en situation d'inaptitude au travail et une salariée qui a été licenciée pour des faits qui n'ont rien à voir avec cette situation.
Une salariée qui a été licenciée pour inaptitude, effectivement, l'avait été pour motif disciplinaire. Ça a été annulé par la direction régionale du travail et elle a eu un deuxième motif d'inaptitude pour la mettre dehors.
La situation en question est plus compliquée que cela. Cette salariée avait trouvé un emploi dans un autre secteur, dans une autre activité, et à ce moment-là, elle avait fait une demande de rupture conventionnelle qui n'avait pas pu se résoudre. Et ensuite, il y a effectivement eu une procédure de licenciement qui a été contestée par l'inspection du travail, dont acte.
Il n'y a pas de dysfonctionnement pour vous dans cette affaire ?
Si, bien sûr. Je ne vais pas vous dire que la situation est satisfaisante, loin s'en faut, parce que, encore une fois, c'est absolument inadmissible. Nous avons tout fait pour protéger, nous faisons tout pour réparer ce qu'ont subi ces salariés de ce qu'elles invoquent. Encore une fois, je vous le dis, il y a une enquête en cours. On a pris des dispositions immédiatement, sans attendre même que les plaintes soient déposées, sans attendre le résultat de l'enquête. La présomption d'innocence vaut, mais malgré tout, on a pris toutes les dispositions qui devaient être prises pour les protéger.
Mais donc aussi des mesures de licenciement. Merci.
Oui, mais qui n'ont rien à voir avec les faits d'agression sexuelle. Et il y a un licenciement, il y a deux inaptitudes qui sont décidées par la médecine du travail. Ça relève de la médecine et non pas du syndicat.
Merci Yves Verrier, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, d'avoir répondu ce matin à notre invitation sur Europe 1.